Enfants, nous continuons toujours l'explication liturgique. On en est à l'autel, on reste encore à l'autel. L'autel, c'est le temple, c'est là où tout se passe, c'est important. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la forme d'un autel. Un autel, ça doit avoir toujours la forme d'un tombeau. Ça doit ressembler à un sarcophage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des sarcophages, parce que ce n'est pas notre mode d'enterrement. Nous, on enterre les gens dans la terre, les enterre, et on rebouche le trou. À l'époque de Jésus, dans l'Antiquité, chez les Romains, les occupants du pays de Jésus, et puis dans d'autres civilisations, on met les gens dans un tombeau en pierre. On creuse une pierre, on met un couvercle dessus, et puis le corps dans la pierre va être étouffé, et puis va se décomposer comme ça, simplement à la chaleur qui s'intégrera de la pierre. Et on dira que la pierre va manger la chair, c'est-à-dire sarco, la sarc, c'est la chair, phago, c'est je mange, sarcophage, celle où la chair va être mangée. Et ce qui va rester à la fin, c'est juste le squelette. Le squelette reste dans les sarcophages. Et donc, c'est l'idée de ce genre de tombeau, qui sont aussi des tombeaux romains, comme le pape est vite arrivé à Rome, c'est la culture romaine qui l'a emporté dans la liturgie, l'expression de l'Église. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Rome, certaines de Jérusalem, et Jésus, c'est beaucoup de Rome, pays du pape. Ainsi, la forme de l'autel, elle vient du pays du pape, elle vient de Rome, c'est la forme de tombeau des Romains. Alors, quand l'autel n'est pas en forme de tombeau, ça, vous voyez ici que il n'y a pas quatre côtés à l'autel, hein, c'est juste une table avec des pieds, et bien on va cacher les pieds. On utilise une nappe pour faire comme si c'était un tombeau. Comme si on avait tous les côtés de l'autel plein. L'autel ensuite, mais depuis assez récemment, hein, une cinquantaine d'années à peine, peut être une table. Mais on perd le symbole de la mort du Christ. Parce que le tombeau va nous faire penser, toujours pareil, à la mort de Jésus. L'autel, c'est là où on fait monter les prières vers Dieu, peut-être que les prières, nos prières sont montées vers Dieu, pardon de nos péchés, c'est monté vers Dieu, dans le cœur de Jésus, sur la croix. Donc on garde toujours ces histoires de croix centrale et de mort du Christ, de tombeau. Autre symbole du tombeau qu'il y a sur l'autel, c'est la nappe d'autel. La nappe qui est sur l'autel, là, elle doit dépasser sur les côtés. Là, c'est très bien fait. Pourquoi est-ce qu'elle doit toujours dépasser sur les côtés? On dit qu'elle doit presque toucher le sol, elle doit vraiment tomber, elle doit vraiment être trop grande, parce qu'elle symbolise un linceul. Là, il est très grand, et c'est bien. Le linceul, c'est quoi? C'est le linge dans lequel, à l'Antiquité, et surtout, là pour le coup, au pays de Jésus, en Palestine, on enterrait les morts. Nous, on les met dans du bois, dans un cercueil en bois, eux, ils les mettaient dans du tissu. On pondait le mort et puis on refermait le linceul sur le mort. Voilà. Et on fermait. Donc la grande nappe de terre, elle est là pour rappeler aussi la mort du Christ. C'est le linceul du Christ, en tout cas ça symbolise le linceul du Christ. Toujours pareil, pour nous rappeler la mort de Jésus, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie sur cette planète, et que c'est à la mort de Jésus que nous sommes libérés, parce que sa prière est parfaite. On revient toujours à cette idée de mort de Jésus. Donc l'autel, il est là pour nous montrer, lui aussi, que Jésus est mort par amour pour nous. C'est la même chose que la croix, mais oui, dans un autre langage, celui non plus de l'endroit où il est mort, mais de l'endroit où il a été enterré. Le linceul, la mort. Le sarcophage, la mort. Et la mort de Jésus pour nous, elle est là pour nous signifier l'amour qu'il a eu pour nous. Après, il y a une autre petite chose que vous ne voyez pas, qui symbolise la mort, c'est qu'un autel doit avoir ou bien tout le dessus en pierre, ça doit être une pierre. Là aussi, ça nous rappelle la mort de Jésus. Je dis que les Juifs, pays de Jésus, mettaient les morts dans un linge, mais ils ne le mettaient pas en terre. Le linge, après, ils allaient le mettre dans une grotte. Et donc, il y avait une margelle en pierre, une dalle de pierre sur laquelle on posait le corps, et après on refermait la grotte avec une pierre de forme ronde, circulaire, comme ça, tandis qu'il fallait rouler la pierre du tombeau de Jésus. Du coup, ou bien le dessus de terre est lui aussi une pierre, là où on pose les morts, ou alors si c'est du bois, comme c'est le cas pour cette hôtel-là, on demande qu'à l'intérieur de la planche en bois, dessus, on mette une pierre d'autel, c'est-à-dire on met une petite pierre à l'intérieur du morceau en bois. Il faut, et on la met au centre, là où le prêtre célèbre la messe, donc il pose le calice, sous la nappe, il y a une pierre. Comme elle est dans l'autel, et j'en ai besoin, je ne vais pas retirer pour vous la montrer, mais c'est juste, voilà, une pierre de 10 cm sur 10, que l'on marque toujours à l'intérieur des autels, pour montrer encore l'ensevelissement. Et dans cette pierre, on perce un trou sur le côté et on cache à l'intérieur des reliques de saints et surtout des reliques de martyrs. Alors, on a le droit de mettre plusieurs reliques, il faut que parmi les reliques, il y ait un martyr. Ça veut dire quoi? Je me rappelle que Jésus est mort pour moi, je dois être capable de mourir pour lui. Donc, je mets avec le symbole de la mort de Jésus le rappel de la mort d'autres chrétiens. Et dans la pierre d'autel, il y a toujours des reliques de martyrs. Parfois, quand c'est bien fait, on sait quels sont les martyrs qui sont présents. Après, il y a un papier collé au dos de la pierre d'autel. Quand le papier s'est décollé, on perd la mémoire des martyrs, mais on sait qu'il y a toujours des martyrs. Et c'est aussi pour ça que quand le prêtre arrive à l'autel, il embrasse l'autel. À la fois pour saluer le symbole du Christ, et puis pour honorer les saints qui sont là. Et le prêtre se rappelle que le Christ est mort pour moi, je dois être capable de mourir pour lui. Voilà. Amour pour amour, amour jusqu'au bout pour amour jusqu'au bout. Donc voilà, retenez ça, autour de l'autel, il y a beaucoup de symboles de l'amour fou ou absolu que Jésus a eu pour moi. Jésus m'a aimé, il s'est livré pour moi, il est mort pour moi. Amen. Pour les adultes, aujourd'hui nous entendons le Christ faire une petite parabole pour indiquer, apprendre à ses disciples la nécessité pour eux de prier toujours sans se décourager. Il faut de la persévérance, nous dit le Christ. Et pourtant, la semelle de cette parabole, il semble dire l'inverse, en disant, vous avez vu que je suis un juge unique. Alors, le vrai juge, vous croyez qu'il va vous faire attendre comme ça? Vous croyez que c'est parce que vous avez cassé les oreilles qu'il va vous exaucer? Ben non, c'est parce qu'il vous aime. Et il va vous exaucer sans tarder. Maintenant, le fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Le Seigneur nous dit, d'un côté, il nous apprend qu'il faut persévérer, et il semble nous dire, il n'y a pas besoin, c'est automatique, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul si vous avez la foi. Comme si le problème de la prière exaucée, ou du corps que prend le Seigneur, ce n'était pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, il est disposé à faire tout ce qu'on veut et le faire rapidement. Le problème, c'est nous. Si nous, on avait la foi, ce serait mieux. Le Seigneur pourrait agir. Si nous, on n'était pas de frein, le Seigneur pourrait donner la pleine puissance. Et il semble bien, d'après ce que dit le Seigneur, que, sur pareil, le blocage, il vient de chez nous. Et soyons honnêtes, donner 90% de notre vie au Seigneur, c'est relativement facile, c'est un petit peu exemplaire. Mais bon, on y arrive, un petit coup d'effort et ça va. Le 90 et 99%, ça commence à rater un peu, mais très honnêtement, tout le monde y arrive. On ne canonise pas les gens à 99%. Le petit pourcent, le dernier pourcent, c'est celui qui fait mal. Parce que si je donne les 100% au Christ, là, je me rends compte que ce qui me reste à moi, c'est zéro. Tant qu'il me reste un petit pourcentage, tant que je peux récupérer la monnaie, tant qu'il y a un gilet de sauvetage, un parachute de secours, un ventral, ça va, on peut y aller, on peut tenter le coup. Je suis retenu. J'ai des bretelles. Une fois qu'il n'y a plus rien, une fois que c'est tout dans le vide, une fois que c'est tout dans la foi, une fois que je donne la vie et qu'il n'y a pas de possibilité de retour, une fois que ce que j'ai dit était dit publiquement et qu'il y a des témoins, et que ma réputation est engagée, une fois que je sais pas comment dire, oui, j'ai donné tout mon cœur au Christ, et qu'il en est témoin, et que, bah, c'est possibilité de reprendre, hein, donner ses données. Là, effectivement, ça résiste en nous, parce qu'on a un instinct toujours de conservation, un instinct de survie, qui nous dit que, non, c'est fou, quoi. Contrôle. Et on a effectivement toujours ce frein en nous, et le Seigneur nous invite à le dépasser dans la confiance, en disant, c'est bon, regarde, à qui tu fais confiance. Vérifie qui je suis, vérifie ce que je fais, et après tu peux y aller. ne faut pas être totalement déraisonnable, hein. Sinon, vous a donné une cervelle, c'est fait pour servir. Et après, vous avez aussi donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, entendre ce qu'ont dit les prophètes, voir ce qu'il a réalisé dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire personnelle, celle de notre famille et vous-même, et puis, étant mis en confiance, lâcher les freins et y arriver. Voilà la théorie. Nous constatons quand même que les choses prennent du temps. C'est assez mystérieux de voir aussi, hein, dans la première lecture, qu'il a fallu soutenir les mains de Moïse en position de prière, rendue vers le ciel, pendant toute la durée des combats, qui a duré jusqu'à la nuit tombée. C'est-à-dire extrêmement long. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait gagner Israël en 203 mouvements, et voilà. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça dure aussi longtemps? Est-ce que c'est parce que la prière n'était pas suffisante, parce qu'il manquait de foi, parce que les hommes ne combattaient pas comme il faut? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sent bien qu'il existe cette résistance, on sent bien qu'il existe ce besoin de délai. Ça vient toujours d'une certaine faiblesse du côté humain. C'est pas que le Seigneur ne veut pas, c'est que le Seigneur ne peut pas. Il est empêché par un manque de perspicacité, un manque de foi, un manque d'entièreté de notre côté. La foi se définit, hein, comme l'adhésion de tout notre être au Seigneur. L'intelligence, la volonté, le sentiment, si on veut, et puis la vie. Je donne tout au Seigneur. C'est ça, la foi. Quand le tout devient relatif, ce n'est plus une totalité, ça commence effectivement à poser problème. À nous, mes frères, de comprendre ça, de demander au Seigneur d'augmenter en nous la foi, et puis de nous aider à donner toutes choses. Petit exemple, une illustration de persévérance. Pour moi, la sainte qui a le plus persévéré, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans son cœur, c'était Sainte Philippine Duchesne, une sainte française, parfaitement inconnue des Français, mais extrêmement vénérée aux États-Unis et au Canada, pour la simple et bonne raison qu'elle est allée évangéliser les Indiens des Grands Lacs. Les Grands Lacs appartiennent aux deux pays. Sainte Philippine Duchesne a demandé assez tôt, dans sa congrégation, à partir de France et à aller évangéliser les Indiens d'Amérique dont elle avait entendu parler. Cela lui a été refusé très longtemps. À chaque fois, on a besoin d'aide pour quelque chose, finalement non, c'est pas urgent, etc., etc. Et elle ne s'est pas découragée, elle a commencé à prier pour la conversion des Indiens. Elle s'est dit, je suis religieuse, je veux convertir les Indiens, si on ne veut pas naître physiquement, c'est pas grave, hein. Moi je vais y aller spirituellement. Et elle a toujours offert toute sa vie religieuse pour la conversion des Indiens d'Amérique. Et lorsqu'elle eut atteint l'âge de 70 ans, 80 ans, quelque chose comme ça, la supérieure de la congrégation lui a dit, bon, si vous persévérez à aller voir les Indiens, je vous autorise à prendre le prochain bateau, à aller voir les Indiens. Voilà. Plus besoin de vous, c'est bon. La date de péremption était passée, vous pouvez, enfin, je ne sais pas si elle est comme ça, mais vous pouvez aller voir les Indiens d'Amérique. Sainte-Philippine Duchesne s'est donc embarquée. Elle a rejoint les missions jésuites, les Grands Lacs. Et puis, arrivée là-bas, elle était trop vieille pour apprendre la langue des Indiens. Elle avait, comme toute personne âgée, une très bonne mémoire de stockage et une moins bonne mémoire d'apprentissage. Moins bonne mémoire de travail. Et du coup, elle n'a jamais pu apprendre la langue des Indiens. Elle n'a jamais pu leur adresser la moindre phrase. Et pourtant, j'ai dit, elle est vénérée aux États-Unis comme étant la grande sainte de l'évangélisation des Indiens. Parce que elle priait encore pour eux, et peut-être qu'à travers le regard, les gestes, je ne sais quoi, les Indiens voyaient la charité qu'elle avait envers eux. Et les Indiens lui ont donné un thème, un surnom, un nom indien. Son nom indien était Sainte qui prie tout le temps. Voilà. C'est pas celle qui fait le discours, celle qui prie tout le temps. Il se rendait bien compte qu'elle priait toujours, toujours, toujours pour eux. Voilà. C'est ce qu'elle avait fait déjà pendant 50 ans de vie religieuse, et qu'elle a continué à faire sur place. Elle n'a jamais pu leur adresser la parole, elle est pourtant devenue l'apôtre des Indiens bénédictins. C'est un exemple, pour moi, dans l'histoire d'Église, de persévérance, d'obstination, je pense bien, à la résistance, peut-être à la vocation qu'elle a sentie, elle a fait du Seigneur, à aller aider ses Indiens, et je ne sais pas pourquoi ça a duré autant de temps. Le fait est que quand elle est arrivée là-bas, elle était prête. Visiblement, les années de prière qu'elle avait faites pour cette intention avaient modelé son cœur, l'avaient préparée et l'avaient mise en situation d'être efficace. Alors nous aussi, parfois nous prions des années pour telle ou telle intention et ça ne fonctionne pas. Ou bien parce que nous n'y avons pas réellement engagé notre foi. Nous demandons au Seigneur, mais bon, si le Seigneur ne fait pas, ce n'est pas grave, on va se débrouiller autrement, quand il y a d'autres moyens de parvenir. Et du coup, notre demande n'est pas suffisamment entière pour pouvoir être traitée par le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas agir parce que nous manquons de foi. Il n'a pas le feu vert suffisant pour déployer son action. Ou bien, parce que c'est à force de persévérance dans la prière que notre cœur sera gagné justement à cette cause et que à force d'avoir prié, nous commencerons à être ajustés à ce pourquoi nous prions. Donc voilà, parfois ça prend du temps, parfois c'est pas le moment, parfois ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur veut juste nous dire que c'est pas sa faute à lui et que si ça bloque, c'est de notre côté à nous. Alors, parfois à nous au sens large. Ça peut être de ma faute à moi, parce que je n'ai pas la foi suffisante, je ne suis pas totalement donné dans ma prière. Ça peut être parfois la faute des autres, parce que les autres ne sont pas prêts, parce que les autres mettent des obstacles à la réalisation de l'action divine, etc. Mais quoi qu'il arrive, où Jésus est innocent, si notre prière n'est pas exaucée, si elle est bonne, hein, bien évidemment, ce n'est pas de sa faute à lui, c'est de notre faute à lui. Demandons au Seigneur de nous aider à être de plus en plus entiers dans notre prière, de plus en plus totalement investis, consacrés, donnés à ce que nous demandons et attendons de lui. Amen.